Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu te parle. On va faire une lecture ensemble dans le premier livre des rois, au chapitre 19, 1 roi 19. 1 roi 19, verset 1er. Un roi 19, verset 1er, la version Semeur. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je n'étais pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. J'arrêterai la lecture ici. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Ça pourrait être le titre. Que fais-tu ici? Et vous mettez votre prénom. Que fais-tu ici? L'histoire d'Élie, je pense que on la connaît bien. On connaît cette réaction surprenante, bizarre du prophète qui, quand même, après un miracle assez spectaculaire devant tout le monde, en faisant descendre le feu du ciel, a prouvé au peuple de Dieu que Dieu était un Dieu vivant. Et il a fait tuer tous les prophètes, il y avait quand même à peu près 800, hein. Il les a tous fait tuer. Et là, devant une femme, Jézabel, qui décide de sa mort, voilà qu'Élie prend peur. Il panique. Il a peur de mourir. Il s'enfuit. Et regardez comment les choses vont s'enchaîner. Il rentre dans une sorte de spirale. Il s'enfuit. Il s'isole. Oh, l'isolement. Il n'y a rien de bon dans l'isolement. Il était avec son jeune serviteur. Il va le congédier. Oh, laisse-moi seul. Laisse-moi seul. Il va dans le lieu le plus solitaire, le désert. Au moins là, il n'y aura personne. Il est là. Et il est tellement mal, dans son cœur, dans sa tête. Tout se bouscule. Il est accablé. Il va s'endormir et là, voilà que Dieu va le visiter. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir. Même si tout semble noir, même si, oh, Seigneur, hey, je veux mourir, ça y est, je suis prêt. Bon, hey, s'il était resté à côté de Jézabel, ça y est, c'était fait. Hein. Voilà. Et voilà que Dieu n'exaucera pas sa prière, heureusement. Dieu va lui envoyer un ange. Un ange cuisinier. cuisinier. L'ange de l'Éternel, quand même. Et à deux reprises, il lui préparera un repas. Lève-toi et mange. Parce que le chemin que tu dois faire est tellement long que si tu ne te renouvelles pas en force, tu ne pourras pas le faire. Il va manger. Et pendant 40 jours, il va marcher. Pendant 40 nuits, il va marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, il entra dans une grotte et passa la nuit. Il rentre dans une grotte. Il y passe la nuit. Dans son cœur, il n'y a plus rien. Il est éteint. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, du moins, c'est ce qu'il formulera. Est-ce que c'est vraiment son désir? On ne peut pas savoir. Mais Seigneur, j'en peux plus, je veux mourir, reprends-moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je veux mourir. Je veux mourir. Il a tout abandonné. Vous savez, ça fait penser parfois à ces comportements qu'on connaît, des fois qu'on traverse, peut-être que vous l'avez traversé, peut-être que vous êtes même plein dedans. Ces moments où on a envie de se couper de tout. On s'isole de tout. Et là, Seigneur, reprends-moi. J'en peux plus. On se coupe de tout. On se coupe de la communion fraternelle, on se coupe de l'Église, on se coupe de tout, parce que tout est noir. Ça vous est jamais arrivé de voir que du noir? Et c'est étonnant de voir que Dieu n'exauce pas la prière. On ne meurt pas, hein? On le demande, mais on ne meurt pas. Seigneur, reprends-moi, je veux mourir, j'en peux plus. Mais c'est sincère sur le moment, c'est vraiment les émotions, tout se bouscule, c'est un tremblement de terre, un séisme intérieur, on est mal. Alors, on ne voit pas d'autre alternative que la main de Dieu qui tombe sur nous et on n'en parle plus. Comment ça, on ne souffrira plus. Mais voilà que Dieu a envoyé un chef cuisinier pour le fortifier. Et là, il sera dans cette grotte. Et la voix de Dieu, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas si c'est pendant la nuit, ce qu'il dit qu'il est en train de dormir, mais... Si c'est le matin, si c'est dans la journée, on ne sait pas trop. Mais soudain, c'est pour ça que j'ai lu la version Summer, il est dit, soudain, l'Éternel lui adressa la parole. Soudain. Il n'est pas dans cette, vous savez, ce raisonnement des fois qu'on peut avoir, Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui me parles? Non, il n'est pas dans ça. La voix de Dieu se fait entendre d'une manière claire. Mais c'est court, c'est direct. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Comme si les forces que Dieu avait données à Élie, c'est comme si Élie les avait mal utilisées, il est allé dans la mauvaise direction. Ça nous arrive souvent. Hein. On vit de la grâce de Dieu, mais on en fait quoi de cette grâce? Est-ce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes, au lieu de vivre pour le Seigneur? Est-ce que la grâce de Dieu, au lieu de faire les œuvres de Dieu, on ne fait pas nos œuvres à nous? Est-ce qu'on ne détourne pas finalement la grâce de Dieu? En tout cas, c'est ce qu'il a fait, Élie. Les forces qui lui ont été données n'étaient pas pour entrer dans cette grotte. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? En plus, à demander la mort. Que fais-tu ici? Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que fais-tu ici, Élie. Une autre version l'a traduit, et là c'est même presque ironique. La tournure de la phrase, c'est dans la Chouraki, donc très proche du littéral hébraïque, dira « Comment toi, ici ?» Alors j'essaie de donner l'intonation, hein, c'est pas évident, je suis pas un acteur. Mais c'est une question. « Comment toi, ici ?» Vous savez, des fois on est surpris de rencontrer une personne à tel endroit. « Toi, ici ?» Qu'est-ce que tu fais là? C'est exactement la même tournure de la phrase. Dieu lui dit, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme si Dieu était étonné, voire surpris, de voir son prophète ici, dans cette grotte. Bon, entre nous, Dieu, il sait tout. Vous le saviez, hein? Il sait tout. Dieu n'est pas surpris, il fait le surpris. Et on retrouve ça, rappelez-vous, On avait parlé pendant le jeûne et prière avec Adam et Ève. Pareil. Pareil. Le même schéma. Dieu qui se promène dans le jardin et qui cherche Adam. Où es-tu? Comme si Dieu savait pas où il était. Adam, lui, il a peur. Il se cache. Du moins, il essaie de se cacher. Il pense qu'il va pouvoir échapper au regard de Dieu. Alors, il est dans un buisson. Oh, certainement qu'il a choisi un bon buisson bien touffu. Et Dieu qui, comme s'il marchait, il rentrait dans son jeu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et Adam de dire, ben voilà, je suis là, quoi. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Ça veut dire, je me suis caché parce que j'ai péché. Et Seigneur, je ne veux pas que tu vois mon péché. Pouvons-nous cacher le péché à Dieu? Donc c'est la même, en fait c'est presque la même situation avec Élie. Dieu qui dit, mais Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte? Tu crois que j'allais pas te voir dans cette grotte? Et là, Élie va rentrer dans une sorte de plaidoirie. Oh, mais je suis pas meilleur que les autres, j'ai essayé, je suis pas arrivé. Vous savez, on gémit, on gémit, on gémit. Seigneur, je suis pas arrivé. Seigneur, tu vois, maintenant je veux mourir, je veux mourir. Et Dieu lui répète, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas nommé prophète d'Israël pour être là. Je crois que, et vous le savez, Dieu nous a sauvés pour nous faire rentrer dans une grande vocation. Une grande vocation spirituelle, mais qui commence sur la terre. Et je crois que parfois Dieu, il est comme étonné de ne pas nous voir pleinement dans cette vocation. Il est étonné. Oh, il le sait. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos raisonnements, Dieu connaît nos attitudes. Il sait pourquoi nous en sommes là. Mais il pourrait nous poser la question, mais comment ça se fait que tu en es là? Moi qui t'ai appelé à une grande vocation. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien cette vocation. En nous sauvant par Jésus, Dieu nous appelait à avoir une vocation d'adorateur. Merveilleux. Et Dieu pourrait dire, mais comment ça se fait que tu ne m'as pas loué? Pourtant, tu es appelé à ça. Tiens, j'ai pas entendu sa voix ce matin. C'est Dieu qui parle, c'est pas le pasteur. Mais comment ça se fait, je t'ai pas entendu me louer pourtant? Ta vocation, c'est ça? On est appelé à rentrer dans une vocation de témoin? Tiens, mais comment ça se fait qu'il témoigne pas? Mais comment ça se fait que dès qu'il rencontre une âme perdue dans le péché, dans l'ignorance, comment ça se fait que tu as peur de lui parler? Pourtant, mais ta vocation, c'est de parler? Comment ça se fait? Ta vocation, dira l'apôtre Paul, notre vocation, c'est d'être des plus que. Il y a vainqueur et plus que vainqueur. Mais comment ça se fait que tu es encore dans la défaite? Comment ça se fait que tu es encore dans le découragement? Comment ça se fait que tu es là, en bas? Je t'ai appelé à être en haut. Mais comment ça se fait que tu en es là? Dieu pourrait être étonné. On est appelé à vivre la sanctification parce que Dieu est saint. Mais Dieu pourrait s'étonner. Mais comment ça se fait que tu vis encore dans le compromis? On est vraiment des sources d'étonnement pour Dieu. Même s'il comprend le pourquoi du comment, du cheminement. Mais Dieu pourrait nous poser la question, mais comment ça se fait que tu en es encore là? Moi qui t'ai appelé à une vocation qui te dépasse totalement en Jésus-Christ. Élie était appelé à un ministère, un grand ministère pour Israël, et Dieu s'étonne de le voir là, se cacher dans cette grotte. Dieu sait, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais les forces que je t'ai données, ces deux repas, qu'est-ce que tu en as fait? Comment as-tu utilisé les forces que je t'ai communiquées? C'était pour fuir encore plus loin? Élie, tu fais quoi? As-tu oublié l'appel? As-tu oublié ta vocation? Notre vocation, ça nous a été rappelé pendant le jeûne et prière, notre vocation, c'est d'aimer. Ouais. S'aimer les uns les autres, aimer les âmes perdues. Aimer, Dieu est amour. C'est notre vocation que d'aimer. Et Dieu pourrait être étonné, mais comment ça se fait qu'ils se boudent tout le temps entre eux? Pourquoi ils se fâchent tout le temps entre eux? Pourquoi ils se mordent le nez tout le temps, là? Dieu pourrait être étonné. Parce que la vocation qu'il a préparée d'avance, elle est belle, elle est glorieuse. Et de voir ses enfants ne pas s'y installer, ça étonne Dieu. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Notre vocation en Christ nous amènera toujours à nous investir dans le royaume de Dieu. C'est la vocation. Nous investir. Souvent on dit sauver pour servir. Oui, ça veut dire pareil, hein. S'investir dans le royaume de Dieu. Dieu nous a sauvés pour que nous prenions à cœur les intérêts de l'œuvre de Dieu. Amen? Je vous surprends? Non. Mais l'œuvre de Dieu, ça commence où? Au milieu du peuple de Dieu. Ben oui. Et vous savez comment ça s'appelle, le peuple de Dieu? L'Église. Ah, je m'étonne. L'Église, ça commence là. Ça se déborde de l'Église. Mais notre vocation, c'est de s'investir, ben oui, dans l'Église. Dans l'Église. Oui, mais moi, j'ai ma communion avec Dieu, j'ai pas besoin d'Église. Ah, Dieu est étonné. Si la notion d'Église locale n'était pas si importante au cœur de Dieu, l'Église locale, hein, l'Église de Castres, l'Église d'Albi, l'église de Groyer, l'église de Paris, l'église de... Vous mettez toutes les villes. Hein. Si ce n'était pas important au cœur de Dieu, comment se fait-il que dans l'Apocalypse, Dieu prenne le grand soin de s'occuper, oh, pas du peuple universel sur la terre, mais des églises locales, les sept lettres aux églises locales. Dieu s'en occupe très personnellement. Dieu aime les églises locales. Et la vocation de tout enfant de Dieu, eh ben oui, c'est d'aimer l'église locale. Oh ben là, il n'y a pas d'amen au moins. Ah, l'église locale. Notre vocation, oui, est de nous investir dans l'église locale. Ça plaît pas, eh, peu importe, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul dira, aimez-vous les uns les autres, prenez soin des uns et des autres, regardez que c'est inclus toujours dans des lettres destinées, oh pas à l'Église universelle, hein, mais à des églises locales, l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, etc., etc. Toujours l'Église locale. Parce que Dieu aime l'Église locale. Et ma vocation est d'être incorporé dans l'église locale. Parce que Dieu a des projets pour les églises locales. Dieu a des projets pour chaque église locale. La preuve en est, Dieu nous a installés dans une église locale. Et si Dieu n'avait pas de projet pour l'église de Castres, il n'y aurait personne à Castres. Dieu va pas, alors bon, c'est un peu trivial de parler ainsi, mais Dieu va pas placer ses soldats, ses armées, ses enfants dans des lieux où il y a besoin de rien. Dieu est très pragmatique. Dieu répond aux besoins en envoyant les bonnes personnes. Et donc, si tu es là, si tu es là, il n'y a pas de hasard. Dans ta vocation, Dieu avait déjà établi que tu serais là pour t'investir. Là. Ça plaît pas, mais c'est quand même le plan de Dieu. Dieu t'a sauvé pour ça. On peut lutter contre ça. On peut lutter contre ça. La grâce de Dieu pour Élie lui a donné les forces pour faire un chemin, mais lui, il a détourné le chemin. Et on peut se retrouver dans l'église locale, épuisé dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire ses bontés qui se renouvellent, la preuve en est, on est vivant toujours, hein, dans une grâce de Dieu. Mais faire de cette vie qu'il nous donne tout sauf les œuvres de Dieu. Je vis pour moi. Je vis pour moi. Vous savez, Jonas, Dieu lui a dit, tu vas, va là-bas. Va là-bas. Non. Voilà. Ok, vas-y. Que de temps perdu. Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. Élie, à ce moment précis, il est dans la désespérance. Il n'y a plus d'avenir pour lui, la mort. Je veux mourir. Puisque c'est ça, j'irai plus à l'église. Puisque c'est ça, je veux plus rien avoir à faire avec les chrétiens. Puisque c'est ça, je lirai plus ta parole. Puisque c'est ça, je prierai même plus. Puisque c'est ça. Il en est là, Élie. Il rejette tout. Il fait le vide. Il fait le vide. Donc, ce sont des moments qu'on traverse tous. On a tous ces moments de crise. C'est normal. On est tous un peu pareil. Mais là où ça devient pas bien, c'est quand on s'y installe et qu'on s'y établit et qu'on y reste. Dieu est venu. Soudain, il va entendre la voix de Dieu. Et Dieu va lui dire, si on avait continué le texte, Dieu lui dira, « Hé, Élie, tu sors de là de suite. Tu sors de là. Tu rebrousses chemin. » Oui, on imagine une grotte. Une grotte, c'est pas un tunnel, hein. C'est une grotte. Alors, t'es rentré par là, ben, tu ressors de là. Un demi-tour, vous savez quoi ça s'appelle, un demi-tour? Une conversion. Merveilleux, une conversion. Là, c'est la repentance. Repends-toi de ta grotte. Repends-toi, t'as fait fausse route. Sors de là. Et c'est seulement quand il va commencer à sortir que Dieu va se révéler puissamment à lui et qu'il va faire cette expérience du vent qui passe, du feu. On connaît tout cela. Mais il vit cette expérience tout simplement quand il commence à être à l'entrée, ou plutôt à la sortie de la grotte. Il a commencé à rebrousser chemin, et c'est là, alors qu'il est dans cette dynamique de sortir de cet état, parce qu'il obéit à Dieu, que Dieu se révèle d'une manière tout à fait nouvelle. Il avait besoin de ça. Et je crois que tout enfant de Dieu a besoin d'une visitation nouvelle quand on est au plus bas. Mais Dieu l'accorde souvent quand on commence à lui obéir. Bah oui. Il est dit c'est quand il était sur le seuil de la grotte, il commence à sortir, que là, d'un seul coup, il y a le tremblement de terre, que là, il y a le feu. Et là, il commence à avoir peur, il commence à se blottir. Et là, il y a le vent, le murmure. Mais il est déjà à la sortie de sa grotte, le murmure. Et là, il sait que la présence de Dieu est là. Il le sait. Et tout à nouveau, il entend les directives de Dieu. « J'ai besoin de toi, tu as du travail, j'ai préparé des choses rien que pour toi. Tu dois aller t'occuper du peuple maintenant d'Israël. Tu dois oindre un nouveau roi, tu vas oindre un nouveau prophète. Sors de là et va avec les forces que tu recevras. » Je crois qu'on peut tous être un peu comme des Élie à fuir. Et à se cacher dans des grottes. On peut tous être dans nos grottes. On a tous nos grottes. Vous savez, il y avait un don spirituel pendant le jeûne et prière qui disait « Je t'appelle à être dans la lumière. » Dans une grotte, c'est le noir. C'est le noir. Comme pour essayer de passer inaperçu. Sous le regard de Dieu. Oh, dans le noir, il ne me verra pas. Dieu te dira de sortir de ta grotte pour te mettre en pleine lumière. Parce que c'est là que que Dieu va te visiter, c'est là que Dieu va te donner des forces nouvelles, c'est là que Dieu va faire en sorte tout simplement de t'équiper pour que tu rentres dans ses projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, des projets, des œuvres préparées d'avance. On peut facilement se retrouver caché dans une grotte, facilement, très facilement. Pour X raisons, et même pour des motifs parfois très légitimes. Vous savez, quand on se, parfois la solitude, ce n'est pas un péché la solitude, c'est un ressenti qui révèle une souffrance. Mais souvent, quand on est seul, ben on est tellement seul qu'on n'a même plus envie de voir les autres. Tellement on est prisonnier de ces choses-là. Alors on va dans la grotte, au moins là on nous laissera tranquille. Et on se nourrit de cette douleur, on se nourrit de cette souffrance. Jusqu'à dire, oh, personne ne me visite, personne ne s'occupe de moi, Seigneur, je veux mourir. Parfois nos grottes, ce sont des lieux de refuge que nous nous fabriquons, pour éviter de souffrir. Tout à l'heure je disais que parfois dans l'église, oui, on se fait mal les uns les autres. Alors pour éviter de souffrir à cause des autres, je vais dans ma grotte. Je vais dans ma grotte, au moins là, je serai à l'abri, l'isolement. Les grottes, des lieux de fuite, de refuge, on peut fuir la vérité. Vous savez, des fois, quand on sait ce que Dieu attend de nous, dans des domaines très particuliers, Dieu nous demande quelque chose de particulier, mais non, on ne veut pas, non. Alors on fuit dans sa grotte. En fait, on fuit la vérité. On fuit le commandement de Dieu. On fuit la parole de Dieu. On peut fuir la sainteté de Dieu. Dieu est tellement éclatant que dans l'ombre de ma grotte, au moins, ça va. On peut fuir. On peut fuir la repentance. On peut fuir la confession de ses péchés. Alors on se cache, on s'isole. On fuit la vie de prière, on fuit ces moments de communion, parce qu'on sait très bien que si on y rentre, Dieu, il va nous demander de nous purifier. Et on peut fuir l'œuvre de la croix, on peut fuir la puissance de la croix, on peut fuir Dieu lui-même. Alors imaginez que si on peut fuir Dieu, on peut fuir le pasteur, on peut fuir les anciens, on peut fuir les responsables, on peut fuir les chrétiens, on peut fuir l'Église, on peut fuir tout le monde. Fuir. Fuir sa propre famille. Fuir son époux, son épouse. Fuir ses enfants. Fuir son patron, fuir ses collègues. On évite tout, on coupe tous les ponts. Parce qu'on est en douleur, on est en souffrance, on n'est pas bien. Alors, tout ça, on ne veut plus le voir. Ça arrive. Mais même chez les enfants de Dieu, ça arrive. La grotte devient le refuge. Notre tour forte, ou au moins là, on sera tranquille. Non, mensonge du diable. Mensonge du diable. Dieu nous a sauvés non pas pour fuir, mais pour servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons reclus tout au fond d'une grotte, mais pour être lumière dans le monde. Alors, posez-vous la question, tu en es où? Où tu es où? Est-ce que Dieu est étonné de te voir là où tu en es aujourd'hui? Es-tu pleinement dans les œuvres de Dieu? Ou es-tu pleinement au fond de ta grotte? Je pense qu'on est en mesure de se situer chacun. Il suffit de s'examiner. On le sait. Si on est bien, des projets de paix et non de malheur. On le sait si on est en paix ou si on est malheureux. Je pense qu'on le sait quand même. Vous savez, si vous ressentez cette joie du salut qui se renouvelle, ou si c'est le désespoir de votre vie chrétienne qui l'a emporté, on le sait. On le sait si on est investi dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, ou si on est caché tout au fond, parce qu'on veut éviter les douleurs, les souffrances. Un jour, Jésus dira à un homme, Lazare, connaissez le texte? Sort. Vous savez où il était, Lazare? Oh, la Bible est plus précise que ça. Jésus se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Particulier. Une grotte. Et une pierre était placée là devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Et là, il cria d'une voix forte. Alors, bon, Lazare, c'est de l'histoire, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Lucien, sors. Je pourrais le faire avec chacun, mais ça va prendre trop de temps. Mais Jésus pourrait le dire. Jésus est peut-être étonné de te voir dans ta grotte. En plus, tu as roulé une pierre hein, pour mieux te protéger. Mais Jésus, écoute bien ce que dit Jésus. Lucien, sors. Qu'est-ce qu'il a fait, Lazare? Il est sorti. Et pourtant, il était mort. Hein. Il était vraiment mort, hein, le bonhomme. Hein. C'est pas mort vivant, hein, le bonhomme. Il était mort. Il pouvait pas sortir. C'est pas des bonhommes qui l'ont porté hein, en faisant le pantin. Non, il était mort. C'était impossible. Humainement, c'était pas possible. Mais quand Jésus parle, le miracle. Et c'est là que ça devient intéressant pour chacun. Toi, tu penses que tu peux pas t'en sortir de ta grotte. Tu t'es tellement bien surprotégé dans ta grotte, peut-être depuis des années, tu es dans ta grotte enfermée, mais tends l'oreille. N'écoute plus ta douleur, ta souffrance, parce que tu nourris ton âme de ça, tu repasses ton âme de ça. Et vous savez, à force de se nourrir de mauvaises choses, bon, c'est bon. Mais tends l'oreille. Et tu vas entendre la voix du Seigneur qui va te dire pareil, Lucien, sors! C'est pour l'enregistrement. Et, ouais. Et le miracle se produit, tu sortiras, même si le diable faisait tout pour te dissuader de sortir, même s'il était là tel un lion rugissant à l'entrée de ta grotte pour te faire peur. Tout enfant qui obéit à la parole de Dieu ne peut pas être arrêté par le diable. C'est pas possible. Un jour, les disciples, ils ont pêché toute la nuit. Ça a pas marché. Et Jésus, de bon matin sur le rivage, il dit, alors ça a marché la pêche? Ouais, bon, pas trop, il y a rien. Oui, mais vous inquiétez pas. Jetez le filet de l'autre côté. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et Pierre, bon, sur ta parole, parce que tu l'as dit, je le fais. Et là, le filet, pouf. Si tu tends bien l'oreille, toi qui es au fond de ta grotte, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te dire, sors. Et là, c'est là que tu dois dire sur ta parole, si tu me le dis, alors je sors. Et tu vas voir tes chaînes, tes liens, tout ce que tu as su malheureusement entretenir. Tout ça, ça va tomber. Ça tombera. Parce que tu es en train d'obéir à la parole du Seigneur qui te donne une parole de délivrance. Parce que Dieu t'a pas appelé à vivre dans cet état. Dieu t'a pas appelé à habiter dans une grotte. Dieu t'a appelé à être enfant de lumière pour vivre des œuvres éclatantes. Une vocation céleste qui se vit déjà sur la terre. Sur ta parole, je sors. Sur ta parole, je rentre dans ta volonté. Sur ta parole, je rentre dans tes œuvres. Sur ta parole, je t'obéis. Et le Saint-Esprit fait une œuvre de guérison, de restauration, pas après pas. Plus tu t'approches de la sortie, qui était autrefois à l'entrée de ta grotte, plus tu t'approches, plus tu es restauré, plus tu es guéri. Ça peut être un processus plus ou moins rapide, mais peu importe, du moment que le processus est en marche. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu seras guéri. Je vais terminer. Le piège, parce qu'il y a un piège, quand on commence à rentrer dans une grotte, le piège, c'est qu'on s'y perde. on s'y perd. Et je pense que oui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont perdus dans des grottes et ont même oublié où en était la sortie, ou plutôt l'entrée. Il est écrit dans le livre des Juges, nous sommes du temps de Gédéon, et c'est vrai que la nation, du moins la tribu plutôt de Gédéon, était sous l'oppression des Madianites. Et les Madianites, ils venaient, ils se servaient, et comme les Israélites avaient peur, ils allaient se cacher. Et vous savez où ils allaient se cacher? Dans des grottes. Mais le texte va beaucoup plus loin dans la précision. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent. Vous prenez le mot s'aménager. S'aménagèrent des abris dans des cavernes et dans les grottes et dans les endroits escarpés des montagnes. Bref, ils ont fait des grottes une deuxième demeure. Ok, là, ça va être du long terme, parce qu'on a trop peur. Vous voyez ce que fait les peurs? Les peurs et tous les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, la colère, la rancune, l'amertume, l'incrédulité, toutes ces choses que nous alimentons. C'est pas le diable, c'est nous. On les alimente, on les alimente, on se nourrit de ça, on s'aménage des grottes. Oh, dans le lit, ça serait bien, là, dans ma grotte. C'est dans le chevet, là, avec petite chaise, dans ma grotte. Et je suis bien dans ma grotte, au moins, l'homme me laisse tranquille. Mais on broie du noir, on n'est pas bien, on ressasse les choses, on ressasse les choses. Parfois, c'est des choses, et ça fait des années, et on en est encore là à les ressasser. C'est pas vrai? Oui, pasteur, c'est vrai, eh oui. Comme si le pardon qu'on avait accordé n'avait pas effacé les choses. Et on ressasse, et on ressasse. Oh, ce qu'il m'a fait, le frère, la sœur, ce qu'il m'a fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais j'ai pardonné. Mais c'est pas possible, non, non, c'est pas, non, non. Jamais j'irai le voir, jamais, jamais, jamais. Toute personne qui se reconnaîtrait. C'est terrible de quoi on s'alimente. On se nourrit de choses si mauvaises pour nous. Et après, on est surpris que Dieu ne bénit pas. On est surpris que Dieu s'occupe pas de nous. On est surpris de pas avancer. On est surpris on est surpris. Ah, le premier surpris, c'est Dieu. Mais comment ça se fait? T'en es encore là? Et le chemin de la croix, tu l'as perdu? L'amour de Dieu, tu l'as perdu? Tu t'es aménagé une maison, un abri dans ta grotte. Et tu es tellement bien que tu en as perdu le chemin de la sortie. Est-ce que Dieu peut nous bénir quand nous sommes dans des lieux où nous n'avons pas notre place? Quand je dis des lieux, comprenez des états d'âme, des comportements, des attitudes. À un moment donné, tout ce qui est charnel, Dieu ne peut pas l'accepter. Donc, qu'on y tombe. Mais bien sûr, tout le monde y tombe dans ces choses-là. Mais là, on ne parle plus d'y tomber. Oui, tu es tombé, mais tu as installé ta maison. Maintenant, et là, est-ce que Dieu va-t-il approuver? Toi qui es appelé à avoir une vocation, à être assis dans les lieux célestes et à vivre une vocation sur la terre glorieuse, est-ce que Dieu va approuver ta grotte dans laquelle tu t'es installé? Je voudrais, on va afficher un texte, Michel, dans Jérémie 2, 23, en semeur. Jérémie 2, 23, semeur. Jérémie 2, 23. Souvent, la Bible prend des images pour illustrer des vérités. Nous sommes les brebis du Seigneur. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Il y a plein d'images un peu animalières pour nous illustrer. Et là, il y en a une, elle est impressionnante. Elle n'est pas flatteuse, mais c'est nous. Jérémie 2, 23. Au milieu du verset, va observer dans la vallée les traces de tes pas. Va observer dans la vallée les traces de tes pas. Reconnais ce que tu as fait. Chamelle et cervelet. On préfère brebis du Seigneur, oui, c'est sûr, moi aussi. Chamelle et cervelet, mais notez la suite. Qui va gambadant, ça et là. Ça veut dire, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Vous êtes sauvés pour des projets préparés d'avance, pour des œuvres préparées d'avance, pour des projets, des avenirs qui vont vous donner une espérance, quelque chose que Dieu a planifié. Avant même que le monde n'existe, tout était déjà pensé par Dieu dans le salut, mais dans la vie. Dans ta vie. Et Dieu est surpris de voir ses brebis comme des chamelles écervelées qui gambadent çà et là. C'est pas flatteur. Oh, je sais, je ne me suis pas fait encore des amis. Oh. Mais attendez. Culte après culte, réunion après réunion, nous nous plaçons sous le regard du Seigneur. Nous savons tous que le Seigneur sonde les cœurs, on le sait tous. Est-ce que la parole de Dieu arrive encore à toucher nos cœurs pour nous montrer, mais regarde tes pas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Entendons-nous la voix de l'Esprit qui nous dit, mais si tu pouvais comprendre que t'as qu'un pas pour sortir de ta grotte, tu serais enfin libre. Et ça, on l'attend pas. On l'entend plus. Ou on pense que c'est toujours pour les autres. Mais si on pouvait comprendre que là, mais là, Dieu pourrait nous bénir au-delà de toute mesure. Si on pouvait le comprendre et se l'approprier, nous serions les gens les plus heureux de la terre. Hein? Ça vous intéresse? Ben sinon, restez au fond de la grotte. Mais Dieu a des projets. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à une vie abondante, surabondante, dira une autre version. Par vocation, je suis un adorateur. Vous avez adoré ce matin? Alléluia, ça fait du bien d'adorer Dieu, hein? Ben oui, ça fait du bien. Par vocation, je suis un témoin. C'est bien, tu as témoigné il n'y a pas longtemps, c'est bien. Par vocation, je suis appelé à me sanctifier, je dois vivre dans la sainteté, mais c'est bien. Parce que Dieu est saint. Par vocation, je suis appelé à être serviteur et servante. Mais c'est bien, mais commence dans l'église. Par vocation, je suis appelé à être un plus que vainqueur. Mais c'est bien. Sors du découragement. Lève-toi et marche. Vas-y. Seigneur, aide-nous. Ou plutôt, comme Jésus le dira, et je terminerai, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre la voix de l'Esprit qui parle à l'Église. Le Seigneur parlait aux sept églises de l'Apocalypse, des églises locales. Que celui qui a des oreilles entende. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions dans l'état où nous sommes, même si Dieu le comprend. Dieu comprend que les souffrances font qu'on se replie, qu'on s'isole. Dieu le comprend tout ça. Mais là où le Seigneur nous dit, non, sors, 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 sors de là. Parce que la vocation, ce n'est pas que tu t'établisses dans ta grotte, mais tu sors de ta grotte parce qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On va prier le Seigneur et je vais même faire un appel. Je vais déjà appeler les frères et sœurs désignés pour la Sainte Cène à venir sur le devant pour préparer déjà le repas du Seigneur. Mais je voudrais vraiment peut-être donner l'occasion à quelques-uns, mais de sortir de leur état. Parce que Dieu t'a pas appelé à vivre cet état. Dieu t'a appelé à autre chose. Tu dois devenir un vase utile à Dieu. Tu dois redevenir un vase utile et propre à toute bonne œuvre pour Dieu. Pour Dieu. Dieu t'a sauvé pour ça. Et tu as besoin de retrouver le chemin de la croix, qui est le chemin de la sortie de ta grotte, tout simplement. Alors je vais prier le Seigneur. Mais si déjà dans votre cœur, il y avait comme cette voix du Saint-Esprit qui se fait entendre parce que quelque part tu t'es un peu reconnu dans ces choses-là, je vais t'inviter simplement, les yeux sont fermés, même les têtes sont inclinées, parce qu'on n'est pas là pour regarder qui fait quoi. Mais si dans ton cœur tu sens qu'il y a quelque chose pour toi ce matin, mais simplement, lève-toi. Je vous ferai pas venir sur le devant. Mais voilà. Entends la voix du Seigneur qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous restez à vos places, on ne vient pas sur le devant, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Dieu peut vous bénir aussi sur debout à vos chaises. Ce matin, ce culte avait pour objectif de lui apporter quelque chose à Dieu, mais Dieu, lui, il avait pour objectif aussi que tu repartes avec sa bénédiction. Mais tu dois te lever et sortir de ta grotte. Tu dois sortir de ta grotte, de cet état dans lequel tu es enfermé, voire même prisonnier maintenant. Entends la voix de Jésus qui a dit à Lazare, sors. Entends la voix de l'Esprit te dire, là maintenant, tu peux sortir parce que je te le dis. Seigneur, je te prie pour tes enfants. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui fait tomber des chaînes. Tu es celui qui éclaire un chemin nouveau pour que nous puissions retrouver la sortie de notre grotte. Et Seigneur, je te prie maintenant, par une action puissante de ton Saint-Esprit, oui, de mettre quelque chose de nouveau sur le cœur de tes enfants qui répondent à l'appel maintenant. Seigneur, une fraîcheur céleste, un baume divin, quelque chose qui va restaurer, qui va guérir, qui va cicatriser. Oui, Seigneur, toi seul peux créer ce qui a été détruit par la souffrance et par la douleur. Toi seul peux faire une œuvre de résurrection réelle et authentique au fond des cœurs et des âmes qui ont été malmenées, Seigneur, toi seul. Et Seigneur, nous te le demandons, Seigneur. Oui, du haut du ciel, dis un mot sur ton enfant et il sortira de sa grotte. Dis un mot sur ton enfant, il sortira de son état. Oui, guéris-le, envoie ta bénédiction, envoie ta délivrance, envoie ton esprit, fais-lui grâce maintenant, parce qu'il est ton enfant, et tu l'as appelé à autre chose que ça. Oh Seigneur, fais grâce Seigneur. Nous croyons que par tes meurtrissures, nous recevons quelque chose là maintenant. Oh, notre Dieu, donne-nous des oreilles pour entendre. Garde-nous d'endurcir nos cœurs là maintenant à ta parole. Oh, notre Dieu, garde-nous de nous priver de ta grâce là maintenant. Oh, notre Dieu, éclaire-nous un chemin nouveau pour sortir de notre grotte. Oh, notre Dieu, aide-nous. Aide-nous, Jésus. Comme Élie a fait une expérience avec toi, donne à tes enfants de faire une nouvelle expérience avec toi. Révèle-toi d'une manière, Seigneur, glorieuse, nouvelle, avec puissance et autorité. Notre Dieu, révèle-toi, Seigneur, comme toi seul sais le faire, puissamment dans la vie de tes enfants. Oh, notre Dieu, nous te le demandons, Seigneur. Fais grâce, fais grâce. Oh Jésus, souffle ton esprit, souffle ton esprit, souffle ton esprit, Seigneur.